Nous restons à Goma pour entrer dans la deuxième phase de cette conférence de presse, à savoir la séance des questions et réponses. Veuillez mettre vos téléphones sous silencieux. Goma, vous avez deux questions.
C'est Charlie Castéveca pour la Voix de l'Amérique. Certains leaders du territoire de Beni demandent aujourd'hui la désolidarisation ou détachement de la FIB de la MONUSCO. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela?
Oui, merci. La question m'est adressée au porte-parole militaire. Bon. Toujours est-il que, oui, nous avons effectivement aussi pris connaissance d'un document qui circule depuis quelque temps relatif à le détachement de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO de manière générale. Je pense que cette tentative d'analyse ne trouve pas son fondement parce que, comme vous le savez, il a fallu plusieurs années pour asseoir ce que nous considérons comme une devise qui est une force, une mission et un mandat. Et je pense aussi que les auteurs d'une telle analyse ne prennent pas en compte beaucoup de facteurs. Car vous savez, la FIB a été projetée ici comme stipulé dans le document il y a 3 ans. Et pour que la FIB, qui était à l'origine un concept, puisse prendre forme, il a fallu l'implication de tous les acteurs, notamment la brigade du Nord Kivu, qui, comme vous le savez, occupe le terrain de la province du Nord Kivu et qui est déployée dans toute la province du Nord Kivu pour justement prendre en compte la menace sécuritaire posée par les groupes armés contre les populations civiles. Alors, donc la brigade d'intervention est rattachée, appartient à la force de la MONUSCO. Et quand je lis ce document qui stipule même que, compte tenu de la lourdeur administrative, compte tenu de la lourdeur de cette machine onusienne, qu'il était préférable de séparer la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO. Je dois dire réellement que c'est ridicule. Excusez-moi de le dire, parce que ce que l'on ne comprend pas, c'est que d'abord, il faut aller dans les missions dévolues à la brigade d'intervention. Ces missions sont claires. La brigade d'intervention doit mener des actions offensives, doit être mobile. Mais pour qu'elle soit mobile, il faut qu'il y ait des gens, qu'il y ait des bases sur le terrain et qui puissent appuyer les actions de la brigade d'intervention. C'est pour cela que lorsque des novices parlent de choses qu'ils ne maîtrisent pas, ça a tendance à friser le ridicule. Donc je pense tout simplement que normalement, cette analyse ne mérite même pas une considération réelle parce que je me rends compte que les gens ne maîtrisent pas comment sont structurées les unités militaires, comment les unités militaires sont censées mener leurs activités. La brigade d'intervention fait partie intégrante de la MONUSCO et quand elle mène ses opérations, elle est appuyée par toutes les autres composantes de la MONUSCO parce que nous formons une seule force sous un mandat dans une mission. Voilà ce que je peux dire. Nous restons à Goma pour prendre une deuxième question. Oui, Goma, on peut prendre une deuxième question à Goma.
Oui, c'est Norbert Windoula pour les comptes du journal Émergence. Le gouvernement provincial ferme le cas des pactes dans le Massissi. Ces camps seraient utilisés comme une base arrière de milices. Et pouvons-nous savoir certains préalables pour fermer un cas de déplacés et quel est le point de vie de l'OTIA à la suite de cette fermeture et forcée? Je vous en remercie.
Oui, merci. Donc je pense que votre question recouvre plusieurs domaines, notamment un peu de l'humanitaire. Vous avez parfaitement raison de poser la question relative à la situation à Mpati, car comme vous le savez, depuis un certain temps, les FRDC mènent des opérations vigoureuses contre tous les groupes rebelles, Maïmaï, etc., qui font souffrir les populations dans cette partie du territoire. Oui, nous avons dans le Massissi une situation assez préoccupante, car nous avons une coalition de groupes armés, notamment les FDLR, associé au Niatora, appuyé par les éléments de l'Alliance pour un Congo libre et souverain de Janvier Kariri. Et de notre côté aussi, nous avons vu une autre coalition entre NDC Guidon et NDC Tcheka et puis l'UPDI qui, comme vous le savez, est un groupe armé récemment créé à obédience Nandé, pour ne pas le citer. Alors, donc, effectivement, la situation est très préoccupante. Les FRDC ont lancé des opérations dans cette région et tentent de neutraliser tous ces groupes armés qui écument cette partie du territoire. Oui, récemment, il y a eu des incidents dans le camp des réfugiés de Mpati, car, comme vous le savez, un capitaine des FRDC a trouvé la mort, ainsi que notre déplacé, suite à des coups de feu qui auraient été tirés à partir de ce camp. Maintenant, votre question relative à la fermeture de ces camps de déplacés, je pense que vous l'avez dit vous-même dans votre propos introductif, que c'est une décision des autorités provinciales. Je pense qu'il leur revient de pouvoir vous fournir les explications, mais au niveau des Nations Unies, déjà un plaidoyer avait déjà été fait auprès des autorités provinciales pour que de manière coordonnée, si toutefois ces camps de déplacés devraient être fermés, qu'elles le soient de manière coordonnée et en tenant compte des règles internationales relatives aux droits humanitaires. Donc voilà ce que je peux globalement dire. Peut-être que mon collègue de l'UNICEF, de HCR, ici présent, pourra compléter ce que je viens juste de dire. Non, à vous la parole.
Merci. Effectivement, je pense que les micros ont un problème. Effectivement, non. Maintenant, oui. Effectivement, il y a une situation très préoccupante, mais le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés n'a pas des informations précises parce que la zone reste inaccessible, il y a des combats. Notre partenaire, la Commission nationale pour les réfugiés, est plus sur place. Il y a des informations comme quoi il y aurait une bonne partie des 29 000 personnes, environ 29 000 personnes qui étaient dans le site de Mpati et Kivuye, qui ont quitté ce site, mais on ne peut pas vérifier ces informations pour le moment. On encourage tous les acteurs d'assurer la protection des civils. Il faut rappeler que environ 5 parmi 6 de ces déplacés sont des femmes et des enfants. Et toute fermeture des sites doit prendre cela aussi en compte et être d'une manière ordonnée. Il revient aussi aux autorités d'assurer le caractère civil des sites. Merci.
Merci donc. Retour ici à Kinshasa pour prendre deux questions au fond là-bas.
Alain Mouzi pour la radio ICC. Au cours d'un atelier à Kinshasa, le commissaire général de la PNC, Charles Bisseny-Mana, a qualifié le groupe rebelle ADF et la LRA comme des groupes terroristes, au même titre que le groupe Shebab en Somalie. Partagez-vous cette opinion?
Je pense que cette déclaration n'engage que le général Bisseny-Mana. Toujours est-il que ce que je peux vous dire, c'est que le mode opératoire des éléments rebelles de l'Alliance de l'ADF s'apparente réellement à du terrorisme, parce que c'est effectivement des pratiques terroristes qui sont mises en œuvre dans la région de Beni, et car, comme vous le savez, des massacres indiscriminés se passent pratiquement toutes les semaines dans cette région-là. Donc je pense effectivement que leur mode opératoire, ainsi que les engins utilisés, parce que figurez-vous que l'ADF travaille beaucoup sur les engins explosifs qui sont disséminés un peu dans la région, évidemment en travaillant ainsi la bonne exécution des opérations aussi bien des FRDC que de la MONUSCO. Mais je pense que cette déclaration du général Bisseny-Mana est assez intéressante et devrait être analysée beaucoup plus profondément. Oui, Sonia.
Je vais revenir sur la situation à Pati. On a vu la situation dégénérer ces dernières semaines, avec notamment les commissariats qui ont fermé, les FRDC qui avaient annoncé des opérations unilatérales contre les groupes armés. Qu'est-ce qui avait été mis en place par la MONUSCO et les agences onusiennes pour assurer la protection des quelques 29 000 déplacés qui se retrouvaient à Paty et à Kivuye, pour éviter qu'ils se retrouvent entre deux feux, qu'ils soient instrumentalisés par les groupes armés, ou que ces sites, justement, le caractère civil des camps soit menacé? Et qu'est-ce que vous comptez faire à l'avenir, puisque d'autres camps se retrouvent dans la même situation, avec des groupes armés autour, et risquent de faire l'objet d'opérations, ou de se retrouver en zone d'opération très bientôt?
Oui, merci. Je prendrai une première partie concernant les activités de la MONUSCO. Qu'est-ce qui a été fait en termes d'assistance humanitaire? Je pense que les humanitaires pourront prendre en compte cette deuxième partie de votre question, qui est celle que votre prédécesseur avait posée. Paty, comme je l'ai dit tantôt, est assez préoccupant, aussi bien pour la MONUSCO que pour les FRDC. J'ai dit aussi tout à l'heure que les FRDC menaient des opérations unilatérales dans cette zone-là, et que nous avions deux camps de déplacés, comme vous l'avez mentionné, à Kibouye et en Paty, et que justement suite à ces affrontements entre la coalition FDLR, Nyatura et APCLS contre les FRDC, nous avons vu que les déplacés étaient effectivement dans une situation assez précaire et qu'ils avaient cherché refuge, où ils pouvaient. Qu'est-ce que fait la MONUSCO sur place? La MONUSCO était déployée depuis très longtemps dans cette région de Paty, mais dans le cadre de la réarticulation de la force et du basculement de nos forces vers les points chauds, notamment, comme vous le savez, Béni, la base opérationnelle de Paty avait été fermée. Qu'est-ce que nous comptons faire dans un avenir très proche? Là, actuellement, une mission d'évaluation est en train d'être préparée, d'être mise sur pied pour être déployée dans la région de Paty et prendre en compte cette nouvelle donne que nous observons. Mais il faut retenir une chose. Accéder en Paty n'est pas donné à n'importe qui. Accéder en Paty est très difficile. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faudra préciser, c'est que les FRDC mènent des opérations unilatérales, bouclent une zone et travaillent dedans. La MONUSCO n'est pas en appui au FRDC, comme je l'ai dit. C'est une opération unilatérale lancée par les FRDC. Il faut d'ailleurs se féliciter de la volonté des forces armées de la République démocratique du Congo à vouloir mettre un terme à toutes les souffrances que vivent les populations dans cette région. Maintenant, je pense que du côté humanitaire, quelque chose est prévu, et la MONUSCO est en train de suivre cette opération de très près. Nous ne sommes pas présents en Paty. Il faut le préciser, parce que, comme je l'ai dit, nous avons délocalisé nos bases pour des urgences. Maintenant, cette situation, évidemment, doit être reconsidérée, parce qu'il faudra bien que l'on voit exactement si les FRDC qui mènent cette opération unilatérale ont besoin d'un appui. Je pense que nous vous avions aussi parlé ici d'une chose, c'est l'accord technique pour la reprise de la coopération qui a été signé et qui stipule clairement que les FRDC pourraient demander un soutien aussi bien en appui feu, en appui tactique qu'en appui logistique à la MONUSCO. Ceci n'a pas été fait, ça veut dire qu'ils maîtrisent très bien la situation. Évidemment, il y a des dégâts collatéraux ou en tout cas des conséquences collatérales suite aux opérations qui sont menées, qui est le déplacement des populations civiles. Mais ce n'est pas parce que nous détournons les yeux de cette situation. Les FRDC sont sur le terrain, ils maîtrisent la situation conformément aux rapports qui nous parviennent, et je pense que la MONUSCO est toujours prête à accompagner ce processus, mais dans les jours à venir, nous avons l'intention de déployer une mission d'évaluation pour, de manière claire, voir quels sont les besoins réels. Et je pense que la semaine prochaine, le docteur Diallo, qui s'occupe de l'humanitaire, ainsi que les autres aussi vont se rendre dans la province du Nord Kivu pour prendre en compte cette nouvelle donne. Je ne sais pas si mes collègues sont là et peuvent compléter.
Juste peut-être pour ajouter que les HCR et la communauté humanitaire a depuis longtemps poursuivi un plaidoyer auprès des autorités pour assurer que toutes les procédures pour le caractère civil des sites déplacés et aussi la protection des sites au cas de conflits seront observées. Qu'est-ce qui s'est passé en détail dans ces incidents-là qui ont eu lieu dans les derniers jours? Ça restera à examiner. Comme je dis, nous, on n'a pas accès pour le moment.
Merci. Donc, nous prenons une deuxième question ici à Kinshasa. Oui, sur la gauche. Passez le micro, s'il vous plaît. C'est le mois de la femme. J'espère qu'on aura beaucoup d'interventions féminines.
Oui, oui, merci. C'est venant vous dire ça pour la RTNC. On revient à la situation de Patti dans le Masisi. Vous avez semblé dire tout à l'heure que c'est au cours d'une opération lancée par les FRDC, mais nous on apprend que c'est au cours d'une attaque que les FRDC ont été prises pour cible. Il faut recadrer le propos quand même, parce que tel que vous le dites là, ça semble un peu vague, permettez-moi les termes. Aussi, donnez-vous raison au gouvernement provincial qui avait insisté sur la fermeture, c'est une question qui a déjà été posée, sur la fermeture de ces camps, parce que les camps semblaient héberger des hommes armés ou de, bon, je ne sais pas quel terme utiliser. Est-ce que vous donnez raison au gouvernement qui avait vu juste qu'il fallait obligatoirement qu'on ferme ces camps parce que derrière ces camps se trouvaient des rebelles?
Oui, merci. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de revenir sur votre première déclaration. Je confirme. Et je dis bien, je confirme. Les FRDC ont lancé une opération dans cette région depuis déjà au moins une dizaine de jours. Et je pense que lors de la dernière conférence de presse, nous avions abordé cette question des opérations lancées. Ce à quoi vous faites référence, c'est une patrouille des FRDC qui est tombée dans une embuscade tendue par les FDLR, ce qui a provoqué des morts. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les FRDC sont repartis vers Mpati, au camp des réfugiés, pour récupérer les corps qui avait déjà été vandalisé à la limite par cette coalition FDLR, Nyatura et APCLS. Et c'est lors de leur intervention dans le camp de Pati qu'un capitaine a été tué, semblerait, parce que comme je dis, j'utilise le conditionnel, semblerait que les tirs sont venus de l'intérieur du camp de déplacés. Je ne peux pas le confirmer, ce sont encore là des déclarations. Donc, oui, ils sont tombés dans une embuscade, mais c'est dans le cadre d'une opération globale. C'est-à-dire, il faut prendre ça en compte. L'initiative de mener des opérations pour neutraliser ces groupes armés est assez louable. Les moyens mis en œuvre pour mener cette opération aussi sont assez importants. Et aujourd'hui, les opérations se poursuivent. Donc ça, c'est pour répondre un peu ou clarifier votre question, ou en tout cas votre interrogation de tout à l'heure. Alors, maintenant, est-ce que nous soutenons ou nous confirmons la décision prise par les autorités provinciales du Nord Kivu pour fermer les camps de déplacés? Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, et je pense que mon collègue du HCR aussi va encore rebondir là-dessus, c'est que nous avons toujours fait un plaidoyer. C'est une décision souveraine des autorités provinciales. N'oubliez pas que nous ne sommes pas là en proconsul. Il y a des décisions qui relèvent des autorités provinciales, des autorités congolaises. Et puisque nous avons un partenariat assez fluide, donc nous contribuons à apporter nos réserves, ou en tout cas leur dire attention. Ce plaidoyer a toujours été fait, et je pense que peut-être que Florence me complétera, pour que il y ait une coordination, même si cette décision était en dernier ressort maintenue, mais qu'il y ait une coordination, et que dans le cadre de cette fermeture-là, que le droit humanitaire international soit respecté par tout le monde. Ce sont là des exigences. Donc c'est ce que je peux vous dire. Maintenant, je n'ai pas d'avis à donner sur la décision des autorités provinciales. Je suis désolé. Peut-être que les spécialistes, les humanitaires, pourront apporter quelque chose de plus.
Oui,
Je peux ajouter que ce plaidoyer a aussi été assuré par le secrétaire général lui-même lorsqu'il s'est rendu dans le Nord Kivu il y a fin février. Voilà. Et donc, ce qui montre effectivement, comme l'a dit Félix, que aussi bien que toutes les organisations des Nations Unies présentes en RDC, toute la communauté humanitaire dans son ensemble, font ce plaidoyer pour une réponse coordonnée depuis plusieurs temps. Et je veux apporter une précision quant à la mission coordonnée qui est aussi prévue dans le cadre des Nations Unies. C'est cette semaine où les deux représentants spéciaux adjoints au secrétaire général, le docteur Diallo pour le côté humanitaire et monsieur Grassi, se rendront dans le Nord Kivu pour examiner, entre autres choses, cette situation.
Merci donc pour cette deuxième intervention. Donc nous nous rendons aussi tout de suite à Goma pour prendre deux autres questions. Nous avons le temps. Goma, deux questions et favorisez les femmes s'il vous plaît. C'est le dernier jour du mois de la femme. Profitez-en.
Merci beaucoup.
Il va falloir faire une année alors.
Il n'y a pas de femme à Goma.
Merci, je m'appelle Justin Kifou.
Oui.
Je suis journaliste à la radio communautaire de Walikale. Bien évidemment, j'ai une question. J'adresse la question à Félix Basse. C'est en rapport avec les dialogues et les nations, dont la communauté internationale, Félix, demande aux Congolais des règlements différents par les dialogues. Mais jusqu'à l'heure qu'il est, il y a une partie, surtout de l'opposition, qui n'est pas d'accord avec ses propos. Est-ce qu'il n'a pas été censé abonner à ces gens-là? Merci.
Oui, merci. Excusez-moi, je n'ai pas très bien compris la question. Vous pouvez la reprendre, s'il vous plaît, avant de rendre le micro.
Je disais, en rapport avec les dialogues, la communauté internationale demande aux Congolais de régler les différends par les dialogues. Mais une partie des opposants, les opposants, continuent toujours et ne sont pas d'accord avec les dialogues. Je vous pose maintenant la question de donner les conseils à ces gens-là qui ne sont pas pour les dialogues.
C'est pas une question, alors hein?
Oui, merci pour votre question. Il a le droit de poser ses questions. Je pense que il est libre. Maintenant, quel conseil? Je pense que vous l'avez dit vous-même. Il serait prétentieux de la part de la MONUSCO de vouloir donner des conseils. Je vous ai toujours répété ici à suffisance que l'histoire du dialogue national est une affaire congolaise, que c'est aux Congolais de décider de ce qu'ils veulent faire de ce dialogue-là. Et ce que je retiens par contre, c'est qu'au moins on sent une forme de dynamisme ou de dynamique de la part des acteurs politiques et de la société civile, parce que au moins il y en a qui expriment leur point de vue qui sont pour le dialogue, mais il y en a qui ne sont pas pour le dialogue. Donc je pense que déjà là, nous avons un début de position et que le reste consiste tout simplement à harmoniser les points de vue, à discuter, à échanger. C'est ce que le secrétaire général des Nations Unies, lors de son dernier passage, a affirmé. C'est ce que M. Mamman Sambo Sidiko, non seulement dans ses propos, mais aussi dans les actes qu'il pose de manière quotidienne avec les autorités congolaises, s'évertue à faire prévaloir que les acteurs politiques, que la société civile, en tout cas, tous ceux qui sont impliqués dans ce processus, en vue d'avoir des élections libres, transparentes, crédibles, mais en tenant compte des intérêts spécifiques des populations congolaises. Mais nous n'avons pas réellement de conseils. Nous intervenons pour encourager les gens, pour accompagner le processus, et nous restons à l'écoute des populations et des autorités congolaises pour toutes sortes de requêtes qui nous seraient soumises, car nous sommes prêts à accompagner les autorités, les populations dans tout ce processus. C'est ce que je peux vous dire. Oui, une deuxième question à Goma.
Ok, c'est Albert Toulinabo du journal Le Peuple Souverain. Monsieur Félix Basse, vous ne cessez de nous dire, à travers les séances de vidéoconférence, que c'est le gouvernement congolais qui a fait appel à la MONUC, aujourd'hui MONUSCO, depuis 2002, c'est-à-dire il y a aujourd'hui plus de 15 ans. Et alors, quel est tout fait toujours aujourd'hui par rapport à la demande du gouvernement congolais de retirer la moitié des contingents de la MONUSCO?
Je pense que au début de cette conférence de presse, je vous ai dit aussi que le mandat de la MONUSCO qui est en train d'être discuté au niveau du Conseil de sécurité sera probablement diffusé cet après-midi là. Alors, donc attendons un peu que cette résolution soit définitivement adoptée et soit publique pour qu'on puisse aller de l'avant dans le cadre de cette discussion là. Il faut tout simplement noter que conformément à la résolution 2211 du Conseil de sécurité, d'ailleurs qui arrive à expiration au plus tard demain, il a été clairement indiqué par le Conseil de sécurité qu'un cadre formel devrait être mis en place pour initier un dialogue stratégique. Un dialogue stratégique dans le but de préparer le retrait de la MONUSCO de la République démocratique du Congo, car comme vous savez, nous ne sommes pas venus au Congo pour rester là éternellement. Il faudra bien qu'un jour, que la MONUSCO puisse partir. Ce dialogue stratégique a été initié l'année dernière et a été bloqué depuis à peu près le mois de novembre ou de décembre de l'année dernière. Et fort heureusement, grâce à la volonté de toutes les parties et aussi grâce à l'intervention de tous ceux qui sont concernés, intéressés, préoccupés par la situation politique et sécuritaire ici au Congo, ce dialogue a repris. Ce dialogue a repris et du 9 au 19 des experts qui sont réunis au sein d'un comité technique se sont réunis du 9 au 19 pour discuter des points essentiels concernant le retrait de la force de la MONUSCO. Je veux juste rappeler qu'il y a peu de temps déjà, nous avions pris cette initiative suite à une décision du Conseil de sécurité de retirer 2000 casques bleus de l'Est de la République démocratique du Congo. Et oui, ce sont des recommandations faites par M. Raymond Tshibanda, le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, devant le Conseil de sécurité le mercredi dernier. Ces recommandations sont mises sur la table. Il appartiendra au Conseil de sécurité de prendre une décision. Cette décision n'a pas encore été prise ou en tout cas n'a pas encore été rendue publique. Je pense tout simplement qu'il est tout à fait normal que de part et d'autre, chacun exprime ses desiderata. Maintenant, la décision appartient au Conseil de sécurité. Je pense que d'ici cet après-midi, nous aurons une résolution qui sera votée et qui sera rendue publique. Et à partir de ce moment-là, nous pourrons en tout cas nous inscrire dans la mise en œuvre de ce nouveau mandat qui nous sera donné. Mais je veux aussi vous dire tout simplement une chose, c'est-à-dire que la réduction étant quelque chose qui est inscrite dans la résolution précédente et à cause de cette inscription, la force s'était déjà engagée dans une dynamique de transformation de cette force dans l'optique d'une réduction des effectifs. Il faudra aussi considérer que ce n'est pas parce qu'on est 10 000 ou on est 20 000 qu'on est beaucoup plus efficace. Mais nous avons intégré cette nouvelle donne du Conseil de sécurité qui nous demande de nous préparer à partir et c'est pourquoi nous discutons avec les autorités congolaises et dans cette dynamique-là, nous avons déjà initié des mécanismes qui permettent à la force d'être beaucoup plus agile, d'être beaucoup plus mobile, d'être beaucoup plus opérationnel et de répondre de manière effective aux préoccupations des populations. C'est dans ça que nous inscrivons, en accroissant nos moyens aériens, en accroissant nos moyens d'acquisition de traitement et d'exploitation de l'information, mais surtout aussi en nous appuyant sur nos partenaires congolais, parce que seuls nous ne pouvons rien faire, seuls sans la participation ou l'appui des populations civiles aussi, rien ne peut être fait. Donc nous sommes dans cette dynamique-là de retrait qui doit se faire, encore une fois, de manière progressive, de manière graduelle et de manière ordonnée. Car les acquis que la RDC a pu quand même engranger avec l'appui de la MONUSCO depuis une quinzaine d'années, ces acquis ne sont pas négligeables et il ne faudra pas qu'on puisse les perdre tout simplement dans un départ précipité. Donc voilà ce que je peux vous dire. Cet après-midi, nous aurons la résolution et je pense que M. Maman Sidikou, comme je vous l'ai dit au début de cette conférence de presse, sera là très prochainement pour pouvoir échanger avec vous en profondeur de cette décision-là. Donc nous prenons une dernière question ici à Kinshasa, oui. sur la gauche, au moins, c'est rassurant, c'est la deuxième femme.
Merci, c'est...
Oui, approchez-vous, s'il vous plaît.
Merci, c'est Mathieu Moussaou pour le compte du journal Forum des As. C'est en rapport avec la résolution qui sera votée cet après-midi. Je veux savoir s'il y aura des nouveautés, hormis l'aspect retrait de la force de la MONUSCO, s'il y a des nouveautés. Merci.
Je ne peux pas présager de ce que la résolution va renfermer, mais je sais de manière très globale que les axes sur lesquels toutes les résolutions s'appuient de manière très générale, c'est la situation politique, la situation sécuritaire, la situation humanitaire, la situation des déplacés, des démobilisés, mais aussi l'accord cadre, la mise en œuvre de l'accord cadre, un certain nombre de thèmes fondamentaux qui vont peut-être indiquer la voie à la MONUSCO dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat. Donc, je mets un terme ainsi à cette conférence de presse. Merci d'avoir été parmi nous. À mercredi prochain.